Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Le sauvetage en mer.
J'ai perdu mon père en mer. J'ai perdu des cousins en mer. Et je n'avais qu'un fils et je l'ai perdu en mer. Alors qu'est-ce que je vous dirai des chagrins toute la vie.
Femme de Douarnenez. Longtemps, la mort en mer fut regardée comme une fatalité. Le sauvetage, en conséquence, n'apparaissait pas comme une nécessité. Le mot même ne fut formé qu'à la fin du XVIIIe siècle. Dans le Littré, la première acception qui vient en est « action de retirer des flots les débris d'un naufrage », le sauvetage comme aubaine. Puis, le dictionnaire ajoute « se dit aussi de l'action de sauver des hommes tombés à la mer ». Louis XIV avait bien enjoint à ses sujets de faire tout devoir pour secourir les personnes qu'ils verront dans le danger de naufrage. Mais c'est seulement au XIXe siècle, l'époque de Littré précisément, que le sauvetage s'organise en France avec ses canots, ses bénévoles, ses stations de surveillance, ses sociétés. La première, en 1825, est dite « Société humaine des naufragés ». Le sauvetage est une construction humaine, sociale et morale. Peu à peu, la technicité gagnant du terrain, les moyens à mettre en œuvre étant de plus en plus coûteux, l'organisation se précise. C'est en 1967 que les différentes sociétés françaises sont fédérées en une seule, la SNSM, qui commémore cette année son 50e anniversaire. Entre les deux piliers qui demeurent, l'État, le bénévolat, le partage des responsabilités est pour un moment clarifié. Le XXe siècle voit aussi s'élever tout un édifice de conventions sur le droit de la mer. En 1982, il est de nouveau rappelé par l'ONU que le capitaine a obligation de prêter assistance à toute personne se trouvant en situation de détresse en mer. Et c'est au moment où on pourrait se féliciter de la qualité de tous ces dispositifs qu'éclate la grande crise des réfugiés en Méditerranée. Y a-t-il jamais eu dans cette mer des embarcations aussi fragiles que celles qui circulent actuellement ? Surtout, Frontex et les autorités des pays européens chargés de lutter contre l'immigration clandestine commencent à soupçonner de complicité avec les trafiquants, les bateaux de pêche, de commerce ou d'ONG qui portent secours aux réfugiés. Comme quoi la construction humaine, sociale et morale du sauvetage est une entreprise plus fragile qu'on ne croit.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Vincent Guiguenot, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Notre grand spécialiste en France des phares et balises, maintenant conservateur au musée de la Marine, dont les locaux parisiens étant fermés pour travaux et pour 4-5 ans.
Jusqu'en décembre, fin de l'année 2021. Oui.
Les conservateurs se tournent vers les autres implantations du musée de la Marine, et notamment celle de Fort-Louis.
Port-Louis,
dans le Morbihan, où vous avez préparé une exposition sur le sauvetage.
Oui, la citadelle de Port-Louis accueille le musée de la Marine depuis les années 60. Il y a un certain nombre d'expositions permanentes, dont l'une est consacrée depuis 2008 au sauvetage en mer. Et à l'occasion des 50 ans de la SNSM et des CROSS, des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, le musée de la Marine a organisé cette exposition baptisée May Day.
C'est-à-dire ?
Du nom du code international pour appeler le secours en mer.
Et il est bon que ce code soit en anglais parce que c'est dans les îles britanniques que le sauvetage en mer s'est formalisé d'abord au début du 19e.
Oui, alors c'est en effet un opérateur radio d'aéroport de Londres qui a imaginé ce Mayday qui a remplacé le SOS qu'avait lancé le Titanic le 15 avril 1912. Mais il avait pensé aux Français parce que Mayday pouvait se dire m'aider. Et comme c'était aussi pour les opérateurs, ses camarades français de l'aéroport du Bourget, il a choisi ce mot qui est international et qu'il faut donc répéter trois fois Mayday, Mayday, Mayday. Quand on appelle les secours, pour dire qu'on est en urgence vitale.
Et moi, je répète trois fois, 19e, 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 c'est quand même le point de départ, Vincent Guiguenot.
Oui, le mot, comme vous l'avez rappelé, l'idée de sauvetage institutionnalisé naît chez les Anglais au début du 19e siècle. Ça va donner la naissance à la RNLI, à la Royal National Lifeboat Institution, qui va d'ailleurs beaucoup servir de modèle aux Français. Vous avez évoqué la société humaine de Boulogne-sur-Mer en 1825, qui est la première société de sauvetage en France, mais qui est paritaire et qui longtemps d'ailleurs va rester avec des administrateurs anglais.
Donc c'est... Parce que c'était les baigneurs anglais, les marins anglais, oui, les pêcheurs anglais qui fréquentaient Boulogne.
Et puis c'était la surveillance du Pas-de-Calais, hein, qui déjà à cette époque et pour longtemps va être le berceau du sauvetage et des évolutions en matière de secours en mer.
À noter que la société humaine, et on parle là des années de la Restauration française, avait en charge aussi la police des bains de mer.
Oui, on est en 1825, c'est le début de ce mouvement vers ce qu'Alain Corbin appelait le territoire du vide, donc cette colonisation de l'espace littoral par les baigneurs, les chemins de fer amplifiant le phénomène quelques années plus tard.
Et les hommes de la société humaine séparés sur les plages, je l'espère, les hommes et les femmes.
À l'époque où les cabines n'étaient pas mixtes, évidemment.
C'était une des responsabilités de la société humaine de Boulogne. En France, cette société de Boulogne survivant, en France, c'est à partir de 1865 qu'il y a un premier essai de centralisation, du moins de fédération, hein, sous le Second Empire.
Oui, après Boulogne, un certain nombre de stations locales vont être créées. Je vous le dis, dans le Pas-de-Calais, puis en Méditerranée, sur les rivages de la Manche et de l'Atlantique. Et il va y avoir plusieurs tentatives d'unification, de rationalisation de ce sauvetage. Et c'est sous le Second Empire, à une époque où les statistiques de sauvetage sont absolument épouvantables, qu'on crée une commission en 1861 qui crée cette société centrale, parrainée par l'impératrice et portée sur les fonds baptismaux par plusieurs personnes, dont quelqu'un qui est cher au musée de la Marine, qui est Théodore Gudin, le peintre, dont le frère s'était noyé, qui était très sensible au sujet. Vous avez parlé des phares. Léonce Reynaud, le directeur historique du service des phares, est lui aussi l'un des fondateurs. Mais la société centrale, elle sera présidée par un amiral, qui est l'amiral Rigaud de Genouilly. C'est une tradition qui va aller pratiquement jusqu'à aujourd'hui.
Alors, cette société organise des stations. L'une de ces stations, avec son canot, c'est celle de Barfleur, dans le département de la Manche. Voici un témoignage tardif de Bernard Leblon, qui avait été curé de cette localité, et qui raconte ce qu'on nomme à Barfleur les trois ou les quatre glorieuses, enfin les naufrages successifs de cinq bateaux, le 19, le 20 et le 21 novembre 1893. Un de ces bateaux est rétif, c'est l'Orient.
C'est un bateau allemand, il s'appelle l'Orient, qui était devant Barfleur. Les marins qui connaissaient bien les courants et tous les drames qui risquaient de se passer, on dit il va pas aller loin, alors ils se sont mis en état d'alerte. Alors ils ont embarqué, ils ont fait un équipage de 12 hommes, c'est tous des volontaires, et ils sont partis à l'avion. Mais au bout d'une heure et demie, ils n'avançaient plus d'un poil. Hein. L'équipe était absolument épuisée. Ils sont revenus au port, ils ont retrouvé une dizaine d'hommes d'équipage pour les remplacer. Et le patron Boisard est reparti une deuxième fois pour sauver l'équipage. Il a fait le tour, c'était comme un bateau fantôme. Il n'y avait pas une seule tête qui dépassait du plat-bord. C'était vraiment un bateau comme abandonné alors que tout l'équipage était à bord. Et tout de même, à la fin, il y a un type qui est sorti sur le pont. C'était le capitaine, il s'appelait le capitaine Holzer, je crois. Et tout ce qu'il a su dire aux marins qui risquaient leur peau pour venir le sauver, c'était le seul mot français qu'ils connaissaient, c'était merde. Alors ils sont revenus très déçus à Barfleur, et puis quand ils ont vu qu'il cassait son amarre, alors ils n'avaient pas de rancune, et ils sont repartis, mais cette fois par la terre, par le chemin qui longe le Groenland Crabé, et alors ils ont lancé des amarres, et ils ont fait établir un va-et-vient, de sorte qu'ils ont sauvé l'équipage, sauf trois.
Le capitaine ne voulait pas être sauvé. Ça arrive parfois dans les annales, on conserve le souvenir de quelques moments difficiles. Ainsi, à Boulogne, 60 ans avant cette affaire de Barfleur, en 1833, la foule était là sur les quais qui observait un bateau, l'Amphitrite, en perdition, dont le capitaine se refusait absolument à être sauvé parce qu'il avait dans ses cales des femmes voleuses, prostituées, destinée à l'Australie, si elle s'était évadée, il perdait ses primes.
Ça l'affaire. Oui, c'est une histoire qui, avec le naufrage de la Sémillante, fait partie de ces naufrages qui scandent l'histoire du sauvetage. Effectivement, le refus du commandant conduit à la mort ces femmes. Et William Turner s'inspirera de cet événement 2 ans plus tard pour peindre un tableau qui s'appelle Disaster at Sea, donc le désastre en mer, qui est au moins autant inspiré de cet événement que du radeau de la Méduse de Jéricho qu'il avait vu à Londres quelques années auparavant. Donc le romantisme va se saisir du naufrage et de ces histoires terribles.
Alors Boulogne, sa société, la société centrale de sauvetage des naufragés, avec son amiral dont on ne dira pas le nom, et puis une autre société.
Dresden Joseph, sortant de table, s'est jeté tout habillé à l'eau pour sauver un enfant tombé dans le port de Kériti. En août 1955, alors âgé de 12 ans, a sauvé un enfant dans les mêmes conditions. La citation comporte l'attribution de la médaille de bronze.
Merci, monsieur.
Vous avez quelque chose à dire à la radio ?
Non, je sais pas. Ben, je fais ça parce que j'avais la bonne volonté de sauver ces petits gars-là. Parce que je ne savais pas nager d'abord.
Bien sûr.
Et comme je venais juste de finir de manger,
bien.
C'était le tout pour le tout. La pierre doit gagner. Quoi.
Eh bien, je vous félicite.
Alors, j'essaye de les sauver tout là.
Je vous félicite. Allez, au revoir.
Je redis ce qu'a dit le Breton timide. Il ne savait pas nager, c'était le tout pour le tout. J'ai essayé de sauver ce petit gars. Alors on est à côté de Pinmar, dans le Finistère, et on est dans une autre société, Vincent Guiguenot, on est chez les hospitaliers sauveteurs bretons.
Oui, c'est la deuxième grande société qui est créée quelques années après la société centrale, par Henri Nadeau de Buffon. Une société...
Buffon, de chez Buffon.
Oui, lointainement, oui. Plus fils d'un ingénieur des ponts, plus sûrement. Et cette société...
Et c'est un ingénieur des ponts qui parle, la personne de Vincent Guiguenot.
Ah oui, on est très attentif aux biographies. Et ce qui est intéressant, c'est que cette société, qui publie une revue qui s'appelle « Les Annales du Bien », a vraiment un discours sur la rédemption, sur le renouveau, qui d'ailleurs éveille un peu les soupçons ou la suspicion parmi les édiles bretons. Le maire de Saint-Servant, par exemple, ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée d'un canote ou de sauveteur dont il dit qu'il comporte des ennemis de la République, parce que les HSB sont plus proches de l'Église catholique. Et donc cette société va petit à petit s'imposer et avoir une action assez complémentaire de celle de la société centrale, en se spécialisant beaucoup sur le sauvetage des plages, sur les stations balnéaires.
Et est-ce qu'il n'y a pas un effort aussi de secours mutuel ?
Oui, il y a...
Aux veuves ?
Alors, c'est ces sociétés philanthropiques qui existent, dans lequel, dont fait partie le sauvetage, s'inscrivent dans tout ce mouvement de bienveillance, de solidarité. Et le sauvetage est souvent cité comme un des exemples par Frédéric Caille, qui parle de l'émergence de la figure du sauveteur, du citoyen sauveur.
Parce qu'il y a la même chose avec les pompiers, les postes de secours dans les villes.
Oui, c'est une société, la société du 19e siècle, dans lequel à la fois on fait la promotion de l'individu, mais en même temps on aime trouver des figures positives, des gens qui portent secours quand vous tombez dans un canal, quand vous êtes renversé par une voiture à cheval. Donc il y a moult sociétés de sauvetage, dont les sauveteurs en mer sont la figure emblématique, avec tout cet arsenal de médailles, de récompenses qui viennent témoigner de la valeur morale. Il y a une dimension extrêmement morale dans cette affaire.
Mais reprenez le mot bienveillance, il est tout à fait d'usage maintenant, depuis que nous avons un nouveau président de la République. On pourrait parler d'exemplarité, mais il y a aussi des questions de technicité qui se posent. L'organisation devient de plus en plus complexe, parce qu'on a eu des canaux qui ressemblaient aux bateaux de pêche dans un premier temps, mais on est maintenant au milieu du XXe siècle, disons. Il y a besoin de canaux à moteur, de canaux avec des moyens de communication. Ça coûte plus cher, c'est plus difficile à entretenir, etc. On en est au milieu du XXe siècle. Sugy Solidor, insubmersible. Tiens, bon!
Le ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte. Son baiser me brûle toujours, est-ce là ce qu'on dit l'amour ? son bateau mouillé dans la rade. Chassant les rêves de la nuit, au jour naissant il s'est enfui pour rejoindre les camarades. Je l'ai vu monter sur le pont, et si je ne sais pas son nom, je connais celui du navire. Un navire qui s'est perdu. Quant au marin, nul n'en peut plus rien dire. Le ciel est bas, la mer est grise. Ferme la fenêtre à la brise.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Il est bien petit, notre canot de 15 mètres, au sommet de cette énorme vague. À vous tous, qui avez rêvé du grand large en lisant Conrad ou le commandant Lacroix, et qui maintenant naviguez pour votre plaisir, nous vous souhaitons de tout cœur de n'avoir jamais besoin de la SNSM. Pensez cependant qu'elle doit, en permanence, être prête à intervenir et que sans votre collaboration, il lui est impossible d'avoir un matériel et un personnel prêts à vous aider n'importe quand et dans n'importe quelle condition.
Le sauvetage en mer avec Vincent Guiguenot qui organise avec le musée de la marine, une exposition à Port-Louis, dans le Morbihan, sur le sujet. Alors maintenant, nous voici en 1967-1970. Suzy Solidor est toujours là, insubmersible, mais vient de naître la SNSM, bien connue des habitués des littoraux français.
Oui, l'extrait qu'on a entendu, c'est un documentaire de 1970 intitulé « SNSM, qui es-tu ?» qui expliquait quelle était cette société qui avait été créée donc trois ans plus tôt et qui appelait déjà à la générosité.
Et le bateau qui est signalé, le canot, puisque vous dites canot, j'enchaîne, c'est un bateau d'Ouessant.
C'est le patron François Morin, qui était un canot qui est né du temps de la Société Centrale, c'est un des derniers en bois, donc en 1960, et qui va finir sa carrière au temps de la SNSM. Il est d'ailleurs maintenant classé monument historique. Il est en train d'évoluer dans le golfe du Morbihan. C'est la semaine du golfe, met à l'honneur le sauvetage. Il a été magnifiquement restauré par le chantier du GIP à Brest avec le soutien de la Direction régionale d'action culturelle. Donc le François Morin évolue du côté de la pointe de Perne. Et pendant ce temps-là, le commentaire appelle les 800 000 plaisanciers français à donner quelque argent à la société en francs. Et au fond, on pourrait reprendre aujourd'hui ce discours, transformer les francs en euros et les 800 000 en 4 millions de plaisanciers pour constater que la SNSM n'a aujourd'hui que 70 000 donateurs. Et donc la question du financement de la SNSM date de sa création, qui est la volonté de l'État dans les années 60, qui fusionne les hospitaliers sauveteurs bretons et la Société Centrale dans une société unique.
Sans oublier celle de Boulogne.
Boulogne un peu plus tard.
Un peu plus tard. Alors, il y a les dons et legs. Il y a le bénévolat. Alors justement, l'évolution du bénévolat sur 50 ans, il y a 7000 bénévoles aujourd'hui, ai-je lu. Et à l'époque
Je crois qu'il y en avait 4000 à l'époque, mais c'était... On a fusionné deux sociétés qui avaient vraiment une philosophie du sauvetage assez différente. La Société Centrale était vraiment tournée vers le large avec ses canots et les hospitaliers plutôt sur le littoral. Donc c'était deux activités très complémentaires et l'État, donc en l'occurrence les administrateurs des affaires maritimes, ne voulant pas choisir dans la distribution des subsides entre l'une et l'autre, ont décidé de les fusionner et donc d'apporter les sauveteurs des uns et les sauveteurs des autres pour créer cette société unique, mais qui au fond a deux cultures du sauvetage, l'une plus littorale et l'autre clairement plus maritime.
Mais si l'État intervient, c'est parce qu'il a aussi assuré des tâches qu'aucune de ces deux sociétés n'aurait les moyens d'assurer. Et il faut faire vivre des centres de recherche, des centres de surveillance. Je vous laisse dire les acronymes et traduire parce que vous êtes beaucoup plus compétent, Vincent Guigueno.
Alors
les CROSS.
Les CROSS, oui, la 1967, c'est à Lorient que l'on expérimente le premier CROSS, donc Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, qui a plusieurs missions, surveiller le trafic. Qu'est-ce qui se passe dans les années 60? On se rend compte que les risques en mer évoluent de manière très importante. On est à l'aube des grandes catastrophes écologiques, Amoco Cadiz, Torrey Canyon et autres. Et puis on a cette inflation des risques littoraux, des Français qui vont au bord de la mer. Donc l'État se retrouve avec une société du 19e, des canaux pour ce qui reste de ce qui avait survécu à la Deuxième Guerre mondiale un peu obsolète, certains étant encore à rames, comme le Philippe de Caralette qui est dans nos collections. Et donc l'État dit qu'il faut rationaliser. Et en fait, on fait le choix, non pas à l'américaine, d'avoir une garde-côte ou d'avoir un système étatique pur. On continue dans cet alliage entre l'État qui prend en charge ces centres qui ont une mission d'alerte. Les CROSS, c'est un petit peu des urgentistes de la mer. C'est eux qui reçoivent les appels de secours et qui décident des moyens à engager, dont les canots de la SNSM qui font à eux seuls la moitié des interventions.
Bah, c'est intéressant comme conjugaison de l'effort public et de l'effort privé, du bénévolat et de la modernité. C'est pour ça que les organisateurs de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007 lui ont organisé une petite visite au CROSS Corden de Plouarzel, c'est du côté de Brest. Vous pouvez dire ce que le président de la République a dit à cette occasion?
Ah là là, oui, je vais devoir le dire.
Le futur président de la République.
Le futur président, oui.
Il n'était pas content du tout.
Il n'était pas très content et il a dit, mais qui a eu l'idée de me conduire à voir 10 connards derrière des cartes et des écrans.
Un centre opérationnel sinistre avec tous ces Bretons dont je me fous. Alors, petite piqûre de rappel, on réexplique. Ce son vient justement du CROSS Corden de Plouarzel au président ancien. Ce qu'est cet équipement?
Mayday. Prince de Bretagne, ils vont casser un flotteur. Appel CROSS Corden à vous.
Oui, Prince de Bretagne de CROSS Corden, bonsoir fort et clair, quelle est votre position?
Nous sommes à la sortie du goulet de Brest, au sud de l'Anse de Bertomme. Nous venons de casser un flotteur, à vous.
Combien de personnes à bord?
5 personnes à bord, 5 personnes, 5 adultes, 4 hommes, 1 femme, à vous.
De quel type de navire s'agit-il?
Il s'agit d'un multicoque de course de 15 mètres. Un multicoque de course de 15 mètres qui s'appelle Prince de Bretagne. À vous.
Oui, Prince de Bretagne de CROSS Corden. Donc, un multicoque de course de 15 mètres. Est-ce que vous êtes en train de couler?
Non, négatif. Nous ne coulons pas.
Il n'y a pas d'homme à la mer?
Il n'y a pas de blessés. Tout le monde va bien à bord.
Est-ce que vous avez du danger autour de vous?
Dans l'immédiat, non. Nous n'avons pas de danger. À vous.
De CROSS Corden, donc c'est tout bien pris, on diffuse un message et on vous envoie des moyens.
Prince de Bretagne, Maxi Trimaran, illustré notamment par Lionel de Monchoir. C'est étonnant le calme qui prévaut dans les procédures.
Oui, alors c'est une bande qui nous a été confiée par le CROSS Corden. On en a plusieurs dans l'exposition. Et en effet, ce qui est frappant dans tous ces appels de gens qui sont dans des situations de détresse, c'est que le crossman ou la crosswoman, en l'occurrence, déroule de manière presque clinique une liste de questions pour apprécier la situation et le danger. Pourquoi? Parce qu'il doit décider à l'issue de cette discussion des moyens engagés, de décider s'il faut dérouter un bateau, envoyer un canot de la SNSM, envoyer un hélicoptère de la marine. Et s'il prend cette décision, si un autre appel survient quelques minutes plus tard, eh bien l'hélicoptère ne sera plus disponible. Et s'il a mal apprécié la première situation, il peut se retrouver avec une situation encore plus difficile quelques minutes plus tard. Donc c'est extrêmement frappant, en effet, le professionnalisme. Ils sont que 300, ces agents dans les CROSS. C'est une toute petite corporation. Mais ils sont disponibles 24 heures sur 24, ils font le quart dans leur CROSS, et c'est eux qui vont décider des moyens à envoyer pour organiser les secours.
Le sauvetage, c'est une construction humaine, morale et sociale qui peut toujours être fragilisée par l'indifférence de tel ou tel membre du personnel politique, par le débat sur la gratuité, faut-il maintenir la gratuité des efforts, et puis par le débat sur l'afflux des réfugiés. Je vous suggérerais de prolonger votre exposition, Vincent Guiguenot, par une réflexion sur ce qui se passe en Méditerranée, qui déstabilise les principes qu'on croyait acquis du sauvetage en mer. Ici, c'est un bateau, l'Aquarius, qui est frété par SOS Méditerranée, sur lequel interviennent des médecins sans frontières.
Nous faisons route vers l'embarcation à secourir. Malgré le bruit du moteur, nous entendons les cris des plus de 100 personnes qui ont navigué pendant des heures à bord de ce canot pneumatique. Le quatrième sauvetage de la journée s'achève, le septième en deux jours. Nous n'avons pas fermé l'œil depuis 30 heures et pas de repos en vue. Il faut maintenant prendre soin des presque 800 passagers que nous avons à bord, les réchauffer, leur donner à manger, les rassurer, traumatiser. Ils nous racontent l'enfer auquel ils ont échappé, l'enfer libyen, les prisons, les kidnappings à répétition, les viols, les traitements inhumains, la torture, leurs amis et leurs proches tués et les cadavres abandonnés sans sépulture.
Ce qui se passe là en Méditerranée, c'est hors de proportion avec l'aventure de longue durée que vous racontez.
Ah oui, là on est sur des chiffres de personnes secourues, 180 000 personnes, sur des nombres de personnes décédées qui ont pas grand-chose à voir avec les chiffres. Je crois que la société de sauvetage, le central de secours des naufragés, pensait avoir sauvé 25 000 personnes en un siècle, quand elle donne des statistiques. Donc on n'est vraiment pas non sur... On est dans le même cadre, en revanche, puisque c'est la garde côtière italienne qui, depuis Rome, organise les secours, hein, puisque la convention de Hambourg a découpé la mer en zones de compétence. Donc il y a bien le même dispositif avec un centre opérationnel qui reçoit les appels et qui dit aux moyens de se rendre à tel ou tel endroit, mais sur une situation qui, du point de vue quantitatif et du point de vue, j'allais dire presque, oui, politique et morale, n'est pas la situation du 19e siècle, n'est pas la situation des baigneurs français, évidemment.
Je lis sous la plume de Jean-Patrick Marc, arbitre maritime. Les navires de commerce peuvent se voir refuser l'autorisation de débarquer les migrants par les autorités administratives des pays qui luttent contre l'immigration clandestine. Les navires de pêche subissent des tracasseries. Ils peuvent être menacés de se voir retirer leur permis de pêche. C'est comme si les conventions internationales qu'on a bâties à grand-peine, et souvent même dans des circonstances autrement tragiques que celles d'aujourd'hui, pendant la guerre de 1914, tombaient par terre.
En tout cas, elles sont toujours d'actualité. Vous parlez donc de deux conventions en particulier, donc ce qu'on appelle la convention SOLAS, donc Safety of Life at Sea, dont la première date effectivement de 1914 et qui fait obligation aux commandants d'apporter secours. Et puis de la convention de Montego Bay, donc sur le droit international de la mer, qui elle fait obligation aux États côtiers d'organiser des secours. Par rapport au texte que vous citez, quand on lit les documents que l'OMI et le Haut Commissariat aux réfugiés transmettent aux capitaines de navires, on insiste au contraire sur le renforcement de ces conventions qui garantissent par exemple que le bateau pourra débarquer ses passagers, ses réfugiés, dans des conditions rapides et correctes. Donc on est plutôt dans un renforcement, un approfondissement de ce droit que dans son détricotage.
C'est la recommandation de l'Office des migrations internationales. Le capitaine a l'obligation de prêter assistance à toute personne se trouvant en situation de détresse en mer. C'est un texte de la Convention de 82 de l'ONU qui, en principe, devrait toujours être valable. Merci à vous, Vincent Guiguenot. La semaine du Golfe commence dans le Morbihan. Vous allez la rejoindre pour le vernissage de l'exposition sur le sauvetage en mer dont vous êtes un des organisateurs à Port-Louis dans le dit Morbihan.